Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau reportage. Cette semaine, nous nous interrogeons sur l'extractivisme avec le débat remue-ménage des objecteurs de croissance 62 qui s'est tenu au LAG le 16 septembre. Pour l'occasion, la journaliste indépendante Anna Bednik a été invitée à parler de son ouvrage d'investigation « Extractivisme, exploitation industrielle de la nature, de points, logique, conséquences, résistance ». Publié chez Le Passager Clandestin. Micro Rebelle en a profité pour poser quelques questions à la journaliste, aux organisateurs et au public. Bonne écoute!
Bien, donc nous sommes au LAG, juste après le débat qui vient de se dérouler avec Anna Bednik, autour de son livre L'extractivisme. Alors Anna, justement, pour nos auditrices et nos auditeurs, l'extractivisme, qu'est-ce que c'est et puis quelle réalité ça recouvre?
Alors l'extractivisme, au sens, disons, le plus large, c'est l'exploitation industrielle de la nature sous toutes ses formes, c'est-à-dire aussi bien les projets d'exploitation de minerais, d'hydrocarbures, de forêts, l'agriculture industrielle et les grands barrages hydroélectriques, etc. Et donc en particulier l'intensification actuelle de cette exploitation, à savoir que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on voit vraiment de plus en plus vite et de plus en plus loin, à savoir que ce n'est pas quelque chose qui est récent, mais justement du fait que cela fait très longtemps qu'on exploite la nature, les ressources naturelles, ce qu'on appelle les ressources naturelles, sont de moins en moins faciles d'accès, et donc on a besoin pour continuer à les exploiter, à utiliser des technologies de plus en plus invasives, de plus en plus polluantes, d'accroître toujours plus la taille des exploitations et aussi d'aller de plus en plus loin, donc sur des territoires qui autrefois étaient préservés et aussi revenir sur des territoires qui ont déjà été exploités par le passé et dont on pensait qu'il ne restait plus rien ou plus rien d'intéressant, et aujourd'hui on y retourne, et c'est ce qui se passe notamment aujourd'hui en Europe et en France.
Très bien, je te remercie. Alors, dans ton intervention, tu as beaucoup insisté sur justement ce concept, cette réalité de territoire, et typiquement la fonction utilitariste des territoires. Est-ce que tu peux revenir là-dessus?
Oui, effectivement. Un petit peu partout ou presque où il y a des menaces de ces projets extractivistes sur des territoires, parce que c'est toujours localisé, ça porte toujours sur un lieu géographique, donc qui renferme un gisement ou d'autres formes de ressources contenues à cet endroit. Eh bien, il y a des luttes, il y a des résistances. Et ce qu'on voit, ce que ces résistances permettent de mettre en lumière, et au fait finalement quelque part l'enjeu principal de ces résistances, c'est vraiment le rapport au territoire. Et on peut dire que sur chaque territoire, il y a un conflit qui se joue entre la vision, justement, comme tu l'as dit, utilitariste, c'est-à-dire vraiment le fait qu'on cherche à réduire le territoire à une fonction utile au système économique global. Donc là, pour le sujet qui nous intéresse, c'est l'extraction, l'exploitation de la nature, mais on peut aussi penser évidemment à d'autres étapes de ce même processus, enfin les maillons de la chaîne globale, que ce soit le transport, la transformation, la fabrication de marchandises, la vente, etc., etc., ou le fait de recevoir les déchets de tous ces processus. Et donc finalement, le territoire, il est réduit à son rôle de gisement, son rôle d'axe de circulation, etc., etc. Et donc la deuxième vision du territoire qui est finalement défendu par les luttes, c'est une vision de territoire comme un espace de vie, donc un lieu habité, un lieu qu'on pourrait définir, enfin moi j'aime bien cette citation d'un militant afro-colombien, un espace pour être.
Très bien, je te remercie. Alors, puisque tu évoques les luttes, tu indiquais tout à l'heure que derrière chacune de ces luttes, il y a un fort aspect de résistance. Bon, c'est ce que tu viens d'évoquer, de résister à une agression pour des prédateurs sur un territoire, mais aussi un aspect création. Donc, résistance et création. Est-ce que tu peux développer ces derniers points?
Alors, c'est quelque chose qui m'a même amené à m'intéresser à ce sujet. C'est-à-dire que le tout premier mouvement que j'ai connu, c'était un mouvement de résistance à un projet minier en Équateur. Et donc, au fait, ce qui m'a impressionné un petit peu chez eux, c'est que non seulement ils luttaient depuis déjà de nombreuses années, plus de 10 ans en l'occurrence, et qu'ils ont réussi à gagner deux fois, Ils ont réussi à faire suspendre le projet Meunier deux fois en chassant les entreprises qui portaient ce projet. Mais en plus, ils ont mis en place toute une série de pratiques et d'activités qu'on peut dire alternatives à cet avenir minier qu'on cherchait à leur imposer. Donc, activité qui allait de l'agriculture, évidemment, sous différentes formes d'agroécologie, d'agroforesterie, jusqu'à l'éducation, les médias, etc. Donc, c'était vraiment très complet. Et ce que j'ai pu voir chez une grande majorité de mouvements que j'ai connus, qu'à un moment donné, on en vient effectivement à non seulement lutter contre quelque chose qu'on refuse, mais aussi chercher à construire l'alternative, tout simplement. Alors, construire ou défendre, parce que souvent, parfois en tout cas, c'est quelque chose qui peut préexister à l'arrivée de l'industrie extractive. L'alternative, pas seulement en termes économiques, d'ailleurs, ce n'est peut-être pas le plus important, mais à commencer par le rapport au territoire dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi d'autres formes de pensée, d'organisation, de construction d'autonomie.
Très bien, je te remercie. Alors, l'extractivisme, c'est un phénomène qui maintenant concerne l'ensemble de la planète. Hein. Ceci étant, quelles sont les réalités au sud, les réalités au nord, et puis qu'est-ce que ça traduit en matière de rapport nord-sud ?
Alors, il y a des choses qui se retrouvent ici comme là-bas, notamment le fait qu'on ne demande jamais leur avis aux populations locales, donc à ceux qui habitent le territoire. Donc là, généralement, quand on consulte localement, c'est vraiment de façon purement formel et c'est jamais pour tenir compte de la vie des gens. Il y a l'aspect destructeur ici comme là-bas, il est présent. Ensuite, ce qui est différent, c'est probablement le degré de violence, tout simplement. C'est-à-dire qu'ici aussi, la violence existe. Bon, on sait très bien que tout le monde, je pense, a à l'esprit l'assassinat de Rémi Fraisse, par exemple, qui est manifesté contre le barrage de Sivens. Ce que j'ai pu voir et constater dans les pays du Sud, c'est que son niveau, enfin, degré de répression et de violence est beaucoup plus important. C'est-à-dire qu'il y a non seulement des bavures des forces de l'ordre, mais aussi des exactions organisées, orchestrées, alors soit depuis l'État, soit par des forces de sécurité privées, souvent paramilitaires. Il y a des actes de torture, etc. Donc c'est des contextes beaucoup plus violents. Et ensuite, en termes de rapport nord-sud, alors c'est assez complexe, c'est-à-dire que, effectivement, quand on a commencé à dénoncer l'extractivisme, enfin, quand ce mot est apparu, tout simplement, c'était d'abord en Amérique latine, donc c'est un concept d'abord latino-américain qui aujourd'hui s'est diffusé ailleurs aussi. Et en Amérique latine, effectivement, la première définition visait aussi à dénoncer, alors non seulement les conséquences néfastes, disons, de toutes ces industries extractives pour les territoires, les écosystèmes, les habitants de ces territoires, etc., mais aussi la dépendance des États latino-américains vis-à-vis de leurs exportations de ressources naturelles. Donc ça nous amène à la critique de l'échange inégal, du rôle de périphérie du capitalisme global dans lequel ces pays restent enfermés. Et effectivement, on ne peut pas vraiment reproduire, enfin généraliser cette définition sur les contextes qu'on a dans... La situation qu'on a dans les pays occidentaux, c'est un petit peu plus compliqué. Par exemple, le gaz de schiste états-unien, avant d'être exporté, donc arrivé probablement bientôt dans le port de Dunkerque, avant d'être exporté, il a d'abord satisfait la demande nationale, donc il a été consommé localement, donc c'est pas le même contexte. Mais ce qu'il faut voir aussi, je pense, c'est que la situation aujourd'hui, elle est plus complexe. Elle ne peut pas être lue uniquement en termes de centre-périphérie, en tout cas centre pays occidentaux et périphérie pays du Sud. Et non seulement il y a les pays émergents qui jouent un rôle de plus en plus important, mais aussi dans les pays occidentaux, on relance l'extractivisme, notamment minéral, c'est-à-dire la recherche d'hydrocarbures, la recherche de métaux, et que ces politiques qui vraiment cherchent à impulser cette relance ne sont pas contradictoires finalement avec la poursuite des politiques néocoloniales. Et c'est ce qu'on voit par exemple au niveau de la stratégie de l'Union européenne qui à la fois cherche à favoriser le développement du potentiel local, donc ça c'est d'extraction, ça c'est une citation d'un document officiel, et en même temps à développer une diplomatie minière pour accéder aux métaux stratégiques dans les pays tiers.
Très bien, alors est-ce que tu peux, si tu es d'accord, aborder les aspects idéologiques, autrement dit, par quel type de discours ça passe, comment c'est véhiculé au niveau officiel, au niveau institutionnel?
Pour faire vite, je dirais qu'il y a deux grands types de discours, donc d'un côté les discours qu'on peut appeler anxiolytiques, c'est-à-dire les discours à la fois qui ont cherché à minimiser les impacts, à ne pas les reconnaître, ou à dire qu'ils sont moins importants que ce qu'ils sont en réalité. Et d'un autre côté, donc, première chose. Deuxième chose, faire croire aussi que le problème est déjà résolu, comme c'est le cas par exemple avec tout le discours de la croissance verte, de la transition énergétique, de la dématérialisation de la croissance. Ça, c'est un thème vraiment que je développe beaucoup dans mon livre. Et d'un autre côté, on va chercher à nous faire croire que l'alternative n'existe pas. Alors, à la fois localement, il n'y aurait pas d'alternative à l'installation de chaque industrie extractive sur chaque territoire, parce que c'est la seule activité économique possible. Et évidemment, un territoire sans activité économique dans cette conception utilitariste du territoire, il n'a pas lieu d'être. Enfin, il n'a pas droit à l'existence, on va dire. Et d'un autre côté, au niveau plus global, il n'y aurait pas d'alternative à l'extraction de toutes les ressources naturelles, tout simplement pour fabriquer toutes les marchandises qui assurent notre confort.
Bonsoir Pierre, donc ce soir a eu lieu au LAG un débat autour de l'extractivisme avec Anna Bednik qui a écrit un livre à ce sujet. Alors tu fais partie des organisateurs, alors est-ce que tu peux brièvement présenter un peu ceux qui ont organisé ce soir la soirée et aussi dire pourquoi vous avez choisi l'extractivisme comme sujet?
Alors en fait on est depuis un certain temps évidemment très sensibilisé à cette problématique, notamment parce que je fais partie d'un collectif qui s'appelle Ouyouyouy et qui s'occupe du gaz de couche. Et par rapport à cette problématique, il est évident qu'on a voulu un petit peu faire venir Anna Bednik parce qu'elle a une vision beaucoup plus globale de cette question dans le monde. Et surtout parce qu'il y a une possibilité de voir un petit peu quels sont les combats qui sont menés dans différents endroits sur ce qui nous paraît essentiel comme difficulté actuellement. Alors ça veut dire que concrètement, les organisateurs qui étaient les objecteurs de croissance et ATTAC ont été évidemment les porte-parole de cette initiative parce que, d'une part, moi je peux parler en tant qu'objecteur de croissance, c'est-à-dire qu'il est évident qu'on ne peut pas accepter tout ce qui se passe actuellement avec une société qui est de plus en plus capitaliste et de plus en plus productiviste. On pense que par la croissance, on va réussir à résoudre les problèmes, alors que c'est de plus en plus vérifier que c'est tout à fait inexact et qu'on nous leurre. C'est pas que l'analyse est fausse, c'est qu'on nous fait croire que. Et donc sur ce point, il était essentiel de soutenir ce type d'initiative, d'autant plus que avec ATTAC Artois ici qui était partie prenante, on se rend compte que effectivement il faut à la fois associer tout ce qu'on essaye de voir et de faire au niveau local, mais également voir ce qu'on peut essayer de rassembler au niveau global.
Comment avez-vous connu en fait Anna Bednik?
C'est une histoire qui remonte à quelques années, parce que Anna, moi je l'avais rencontrée pour la première fois dans la région parisienne à l'occasion de rassemblements de collectifs qui s'opposaient au gaz de couche et au gaz de schiste, et surtout gaz de schiste et pétrole. Et donc, elle faisait partie des personnes qui étaient motrices dans ce collectif. Alors, quand je dis motrice, ça ne veut pas dire que c'était elle qui voulait à tout prix prendre la parole et devenir la chef, c'est pas son style, c'est simplement parce qu'il y avait des choses qui se passaient, il y avait une réflexion en profondeur qui permettait justement de montrer les enjeux. Et à la fois avec Anna et puis avec son compagnon, c'est-à-dire Jérémy, c'était intéressant de voir un petit peu à la fois la motivation et de voir un petit peu comment on pouvait essayer de faire avancer des luttes, parce que ce soit dans la région parisienne ou dans le Nord, Pas-de-Calais ou en Lorraine, là, on n'a pas le même contexte que dans le Sud. C'est-à-dire que dans le Sud, il y a pas mal de gens qui sont opposés au gaz de schiste parce que c'est tout un territoire qui est déjà un peu non inféodé à toute la problématique productiviste. Et par contre, ils se battent justement sur tout ce qui est environnemental. Et non seulement ils se battent, mais en plus ils ont des politiques qui sont, qui ont pris le train en marche, mais qui sont, quels que soient les partis d'ailleurs, même de la droite, ils sont en train d'essayer de soutenir les collectifs opposés aux gaz de schiste. Nous, on n'est pas dans le même contexte. Alors c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un regroupement et de voir un petit peu ce qui est d'une part un soutien de la part des différents collectifs, parce qu'on est persuadé, c'est pas du tout pour nous mettre en valeur ce qu'on essaye de faire, mais on est persuadé que la bataille qui va commencer, ça sera pas sur le gaz de schiste parce qu'il y aura trop à faire, ça sera d'abord sur le gaz de couche. D'autant plus que ce soit en Lorraine ou en Nord-Pas-de-Calais, il y a une mobilisation qui est difficile parce que, c'est pas une critique, hein, mais on peut le ressentir dans la mesure où les gens sont tellement habitués à avoir été exploités, à avoir été, disons, esclaves du système, qu'ils ont du mal à remettre en cause et puis ils pensent que, aussi bien, il faut que ça se fasse. Donc on se retrouve avec justement une bataille à mener qui est fondamentale et en même temps on n'a pas encore les billes, mais on va les acquérir petit à petit, hein. C'est-à-dire que faut pas être pessimiste et il faut penser que ça viendra déjà des batailles qui peuvent exister dans le secteur permettre de montrer que on va pas on va rien lâcher et puis on va surtout essayer de montrer qu'on ne va pas se laisser faire. Et puis là, ça ne sera pas se laisser faire comme par exemple avec les mineurs qui se battaient pour essayer d'avoir une condition de vie meilleure. Mais on ne va rien lâcher parce que notre territoire est en difficulté.
Alors rapidement, tu termines sur un sujet que je voulais aborder avec toi. Est-ce que tu peux présenter justement les luttes locales justement sur ces questions liées à l'extractivisme, liées à l'environnement ?
Il y en a tellement. C'est vrai que actuellement, c'est d'autant plus intéressant que quand on voit les finalités, c'est exactement toujours dans la même perspective. C'est-à-dire, c'est vraiment des luttes qui ont comme objectif de mettre en cause le capitalisme et de prouver qu'on essaye de trouver une nouvelle société qui soit vivable. Alors les luttes dans le coin, c'est à la fois sur le gaz de couche, ça peut être également sur tout ce qui est porcherie, projets de porcherie qui ont lieu par exemple du côté de Saint-Omer et du côté de Rimbaucourt près de Douai. Ça peut être évidemment le projet des 1000 vaches dans la Somme, ça peut être des projets des 100 000 poules à Louose. Ensuite, il y a aussi toute une bataille qui est menée actuellement qui va dans le même sens que ce qu'a expliqué un petit peu Anna, c'est-à-dire dans le sens des déplacements d'énergie par les lignes à très haute tension. Et donc il y a une bataille qui est menée actuellement pour s'opposer à la surpuissance d'une ligne entre Avelin et Gabrel, c'est-à-dire entre Arras et puis Lille. Et c'est encore un projet où justement on revient un petit peu à des fondamentaux, c'est-à-dire que on nous le vend comme étant quelque chose qui est obligatoirement indispensable. Il faut passer par là parce que c'est indispensable pour l'économie de la région, c'est indispensable pour la création d'emplois. On est toujours dans le même système de productivisme qui commence à devenir un peu lassant et surtout qui est très destructeur. C'est ça le problème. Alors après, il y a un certain nombre de projets qui n'ont pas abouti. C'est par exemple l'incinérateur du côté de Saint-Omer. Et la lutte était juste Le seul problème, c'est que ce sont des politiques qui ont justement forcé pour que ce projet existe. Alors qu'on voit que maintenant, c'est une faillite qui existe. Et donc, il y a ça. Puis après, il y en a d'autres que j'oublie. Et surtout, par exemple, l'autre problème qui est primordial actuellement, c'est sur deux terrains. C'est sur le terrain à la fois d'agriculture. C'est-à-dire pour avoir une agriculture qui sorte de ce système que l'on a, qui est de l'agro-industrie, qui n'est plus de l'agriculture. Et donc là, on est en plein dedans au niveau du Nord-Pas-de-Calais. Et puis, les conséquences de ça, c'est tout ce qui a rapport avec l'eau, qui sera un des facteurs importants de lutte pour l'avenir. Parce qu'actuellement, on est en train de maltraiter l'eau et on veut encore le maltraiter bien plus après avec les différents projets inutiles.
Bonsoir, alors ce soir c'était une conférence autour de l'extractivisme. Alors quelle est ta sensibilité par rapport à ce débat? Est-ce que tu t'y intéressais déjà ou est-ce que c'est vraiment tu es venu ce soir pour découvrir, en apprendre plus?
Alors je ne connaissais tout d'abord pas le mot à la base, puis bon, en regardant l'affiche je me suis intéressée à ce qui était la définition d'extractivisme. Et du coup, je me suis rendu compte que je m'y intéressais déjà, hein, sur une petite échelle, et que ça ouvrait sur un phénomène assez grand, large, et où il restait encore beaucoup de choses à accomplir.
Alors ce soir, au LAG, il y avait un débat autour de la question de l'extractivisme. Quelle est ta sensibilité par rapport à cette thématique ?
Bon, d'abord, je suis venu par curiosité. Je ne savais même pas exactement de quoi on allait parler, mais j'ai entendu parler du LAG il y a peu de temps. J'ai été alerté sur la conférence il y a quelques jours par les copains de Gaz de Houille, etc. Bon, j'avais quelques petites notions, etc. Mais là, on a assisté à quelqu'un qui a une analyse extrêmement précise, documentée sur place, dans tous les pays d'Amérique du Sud. Je trouve que c'est presque dommage qu'on n'ait pas pu ou qu'on ne puisse pas répercuter ça à beaucoup plus grande échelle, parce que moi, elle mérite quand même d'être écoutée par beaucoup de monde, vu qu'elle précise de façon très exacte des choses dont on n'entend jamais parler. Voilà.
Alors, ce soir, au LAG, il y avait un débat autour de l'extractivisme. Quelle est votre sensibilité par rapport à cette question ?
Ben, on a dans la région un projet lié à l'extractivisme, les gaz de couche. Je fais partie du collectif qui s'oppose à ce projet. Je suis donc évidemment sensible à cette question. Dans la région, ce projet il n'est pas très très connu. Et nous, ce qu'on voudrait faire, c'est vraiment faire en sorte que la lutte, elle décolle, elle démarre, parce que c'est vraiment un projet extractiviste, mais dans toute sa splendeur, c'est-à-dire un projet financier avec une entreprise qui vient d'être cotée en bourse, une action qui dégringole et qui, du coup, les oblige à forer de façon assez urgente pour certifier des ressources et faire redécoller l'action. Donc, on est vraiment... dans un projet tel que le décrit Anna, en fait, avec tous ces mauvais côtés. De plus, c'est un projet qui est porté par les politiques locaux, par beaucoup de politiques locaux, qui nous empêchent de bouger le petit doigt.
et qui nous rendent la vie difficile d'un point de vue de la lutte. Moi, la lutte, comme je le disais tout à l'heure, je la veux. J'aimerais qu'elle parte de ce projet, mais je ne suis pas prête à mener une lutte écolo stricto sensu. Pour moi, les luttes, elles doivent être politiques, et tout projet extractiviste est lié, bien sûr, à une lutte politique, au moins anticapitaliste, et peut-être de façon plus large encore, contre le système marchand, contre la privatisation des ressources naturelles, des biens communs, de l'eau, contre la privatisation de l'être humain, tout simplement, puisqu'on est devenu juste une marchandise force de travail. Et voilà, c'est là-dessus qu'il faut lutter.
Merci beaucoup. Ce reportage est maintenant terminé, j'espère que vous en savez un peu plus sur l'extractivisme. Je vous rappelle que l'ouvrage d'Anna Bednik, Extractivisme, exploitation industrielle de la nature, 2. Logique, conséquences, résistance, est disponible aux passagers clandestins. Cette semaine, c'est Manu Cornet et son morceau Silk Road qui nous ont accompagnés. À la semaine prochaine pour un prochain reportage.